Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 8, l'information sur les radios libres et sur Radio Panique. Extrait de l'émission Mixoup, Chantal Paternostre de Radio Air Libre, emprisonnée.
Mixoup spécial numéro 0. Les miettes de l'actualité à travers le magazine quotidien d'information de Radio Panique. Octobre à décembre 1986. Chantal Paternostre, une animatrice de Radio Air Libre, est passée du stade de la détention préventive à celui de la liberté provisoire. Elle est restée emprisonnée plus d'un an en tant que complice présumée d'un groupe terroriste. C'est justement en octobre que le concours de reportage organisé par Radio Panique trouve son épilogue. Premier prix, un reportage de collègues de Chantal Paternostre sur les conditions de sa détention.
L'après-midi, l'interrogatoire proprement dit. Et ça démarre. Bien sûr, je me refuse à toute discussion politique. Je n'ai pas à les convaincre des bienfaits de l'anarchie. Puis, il faudrait savoir si je suis en prison pour des faits concrets qu'on me reproche à tort ou à raison, ou pour mes opinions politiques. Mais je suis gentille. Je leur donne quand même quelques éléments à croquer. À savoir que je suis féministe, anarchiste, anti-autoritaire primaire et basta. Que pour moi, le fait de s'attaquer à des cibles symboliques telles que l'OTAN, ITT, Honeywell, etc. ne me choque absolument pas. Vaut mieux quelques carreaux cassés qu'un missile sur la cité. Que je suis par contre profondément allergique aux attentats aveugles et meurtriers, style gare, magasin et aéroport. Que je n'ai, quant à moi, participé à aucun attentat. Voilà, c'est tout. C'est en clair ce que j'ai dit de façon brouillonne.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que, au-delà du cas de Chantal Paternostre, c'est tout un processus d'oubli des fondements de la démocratie qui se met en place. Au-delà de l'alibi du terrorisme, ce que vise la répression, à terme, c'est le muselage définitif de toute forme de contestation. Faut-il rappeler à ce sujet l'utilisation abusive de la détention préventive contre les pacifistes de la Florennade qui avaient pénétré pacifiquement sur la base de Florène pour protester contre l'installation des missiles Creuse. La détention préventive abusive de 28 jours des trois filles de Louvain soupçonnées d'avoir peint un slogan pacifiste sur un mur. Faut-il rappeler le vote imminent de la légalisation des écoutes téléphoniques? Faut-il rappeler la rafle opérée par la police de Bruxelles devant le palais de justice lors du rassemblement pacifique des amis de Chantal Paternostre pour protester contre les conditions d'isolement de Chantal? Lors de cette rafle stupide et brutale, la police de Bruxelles prendra les empreintes et les photos de 48 manifestants emmenés. Pratique tout à fait scandaleuse et même tout à fait illégale. Nous pensons qu'il est urgent de se mobiliser face à ce glissement progressif de la répression vers des méthodes unanimement réprouvées par la société qu'elle prétend défendre.
À de multiples reprises jusqu'ici, l'histoire des radios libres, et en particulier de Radio Panique, nous a fait rencontrer le problème de l'information. Approfondissons un peu cet aspect des choses. Rappelez-vous, fin des années 70, début des radios libres FM, des radios ponctuelles, des radios de lutte. Ces radios sont entièrement vouées à l'information, une information de type militant, exprimée et dirigée par les acteurs d'une lutte ou d'un mouvement. C'est évidemment un type d'information qui était pratiquement inexistant sur les radios AM, services publics ou stations périphériques. Les premières radios d'animation, modèle Radio Louvain-la-Neuve, intègrent l'information comme information locale dans un contexte de convivialité communautaire. L'auto-expression des habitants, source de l'information, s'opère relativement spontanément, sans professionnalisme et sans autocritique. Il n'y a guère de soucis sur la forme du langage radio. Le meilleur côtoie le pire. En 1982, les radios du GRIB popularisent le style Music and News importé du monde anglo-saxon. C'en est fini de l'information détaillée avec mention des sources, évocation du contexte et commentaires d'auteurs, l'information traditionnelle de la RTBF. Elle est remplacée par des flashs profilant sans aucune explicitation tel ou tel événement entre deux musiques. La voix monocorde du journaliste traditionnel disparaît au profit d'une voix d'animateur DJ, et le public jeune semble ravi par cette nouvelle formule. Mais les états-majors des radios commerciales et des régies publicitaires savent qu'ils ne pourront concurrencer la RTBF que s'ils professionnalisent et structurent davantage leur production d'informations. Les radios dépendantes de la régie publicitaire Radio Key, filiale de IPB, et Radio Contact en premier, décident en 1982 de créer une agence de presse commune. C'est Key Station News. Michel Goede, l'ex-animateur de la célèbre émission Contraste sur la RTB, y dirige une équipe de 4 journalistes. L'objectif ? Fournir aux radios qui le veulent des magazines et bulletins d'information. Une information qui se décrit comme honnête et non partisane, traduisant la rumeur du monde, témoignant de l'histoire en train de se faire. Une information neuve dans la forme, retrouvant un ton gai comme le bruit de la vie, commente le journal Le Soir. Key Magazine est enregistré sur cassette, puis envoyé dans les différentes radios associées au projet. Vu l'illégalité de ces stations, il n'y a encore aucune immédiateté entre le centre et la périphérie. Relations satellitaires, hertziennes et même téléphoniques spéciales leur échappent. L'agence belga refuse même de prendre ses radios comme abonnés. Key Station News voudrait bien produire des flashs d'informations à injecter directement sur antenne, mais cela lui est matériellement et juridiquement interdit. Un an plus tard, la régie Radio Key et son agence Key Station News sont liquidées par IPB parce que non rentables.
Extrait de l'émission Mixsoup. Coup de fil à l'administration scarbécoise de l'urbanisme, 1986.
Allô ?
Oui, bonjour, je suis bien à l'échouina des travaux publics ?
Oui.
Bonjour madame, c'est Marcel Aufler ici de Radio Panique, une radio locale de Bruxelles, à Saint-Josse. Et je vous téléphonais pour avoir peut-être des précisions en concernant deux projets qui concernent la commune de Scarbec, donc pour nos auditeurs. Le premier, c'est celui de la rue Josaphat, le numéro 121 et autres. Je ne sais pas si je m'adresse à la bonne personne.
Oui, mais c'est à quel sujet ? Enfin bon, c'est de quel point de vue urbanisme ?
Donc il y a deux projets, il y a celui de la place d'Ailly hein, qui nous intéresse,
oui, oui, oui.
Et celui de la rue Josaphat.
Oui.
Alors comme on n'a pas beaucoup de précisions, qu'est-ce qu'on veut construire là-bas ?
Oui. Alors je vous passe au directeur, vous restez en ligne ?
Si vous voulez, oui, oui.
Oui, mais disons, donc dans un cas pareil, n'est-ce pas ?
Oui.
Parce que bien sûr, je n'ai pas des ordres. Donc ce projet au bureau chez moi ici, je crois que le plus facile pour tout le monde, et principalement pour vous, est des ordres que vous passiez à la maison communale, comme ça des ordres auprès de l'architecte, voyez-vous, qui peut vous montrer des ordres. Parce que donc il y va, ce n'est pas pour la rue Josaphat, donc nous ne sommes pas encore au stade d'un projet, c'est un certificat d'urbanisme, voyez-vous, qui est demandé. Donc c'est plutôt un projet d'intention.
Ah bon?
Voyez-vous, donc nous sommes assez, c'est la première phase, si je peux dire, des ordres.
Ah oui, donc il n'y a pas encore un projet tout à fait
précis. Non, 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 et c'est pour ça, n'est-ce pas, des ordres, que je crois qu'il serait utile, comment détailler ça par téléphone, des ordres.
Ah oui.
Ce n'est pas faisable, disons, il faut vous montrer
d'accord.
Ça.
Oui.
Et alors, des ordres, pourquoi
Est-ce que, quand même une question générale, est-ce que l'entrée du terrain Raskinel à la plaine de jeu est concernée par ce projet?
Oui, oui, ce projet concerne des ordres, donc l'école des ordres, donc l'école communale numéro 7, qui englobe des ordres, donc les bâtiments Raskiné également.
Ça veut dire qu'il n'y aura plus de plaine de jeu là-bas, d'après le projet, au stade actuel.
Sous toute réserve des ordres, donc effectivement, cette plaine juste sauterait.
Depuis 15 ans, les autorités scarbécoises ont entravé le bon fonctionnement du terrain Raskinet comme plaine de jeu. Aujourd'hui, c'est le site lui-même qui est directement menacé. Une agression de plus dans un quartier très populaire, à forte densité immigrée, où les gosses ne cessent de se faire harponner par les voitures.
Au début des années 80, dès l'arrivée sur les ondes des radios commerciales, des journalistes de la presse écrite collaborent d'une manière ou d'une autre à ces radios. Certaines radios cherchent à conclure des accords avec les rédactions de certains quotidiens et mensuels. C'est en 1982 que les éditeurs de presse commencent à s'intéresser à la radio. Cet intérêt est tout sauf désintéressé. Les éditeurs craignent que les radios ne leur ravissent une part du gâteau publicitaire. Ils se disent aussi qu'il y a des places rentables à prendre sur les ondes. Une première expérience a lieu à Charleroi. Radio Métropole passe un accord avec la Nouvelle Gazette. Puis en mai 1983, pour la première fois, un groupe de presse crée sa propre radio. C'est Vers l'avenir à Namur. Le réseau Vers l'avenir comprendra en 1987 une douzaine de radios situées en fait dans les zones où le groupe de presse est bien implanté. Namur, Tournai, Louvain-la-Neuve, Verviers, Marche-en-Famenne, Gembloux, etc. Le journal fournit des services d'information et même des émissions musicales à ces radios. Décembre 1984, la société Inadi, dont la majorité du capital est détenue par la société éditrice de la Nouvelle Gazette, se lance dans l'exploitation de radios privées à Charleroi et Mons, qui s'appelle Radio Fréquence Musique, RFM. Fin 1985, le groupe Josy, propriétaire du magazine Pourquoi Pas, rachète SIS et le groupe Rossel crée une radio à Bruxelles, FM Le Soir, qui rejoindra le réseau RFM. Celui-ci, en 1987, comporte 8 radios dont le groupe Rossel est l'actionnaire principal. Stéphane Lowerheys, que reste-t-il de nos réseaux? Dans Media Marketing 1997, numéro 4, extrait.
En 1986, Contact et SIS font la chasse aux franchisés. Deux solutions se présentent à Rossel. Rallier l'un ou l'autre concurrent ou fédérer ses radios. RFM commence à émettre le 1er octobre 1987 et confie sa régie à IP Transistor, l'agence du réseau Contact. La naissance est difficile. Les radios fédérées ont des politiques de programmation dépareillées. L'animosité entre la province et Bruxelles est évidente. Et les moyens sont faibles. En 1989, RFM reste faiblard sur Liège et Bruxelles. N'empêche, l'ambition est d'aller plus loin. Pourquoi pas se rapprocher de RTL ? RTL Radio en matière de programme et RTL TVI en matière de synergie. Le projet Bell RTL ne verra le jour que le 2 septembre 1991. Le réseau est positionné à l'image de la grande sœur française, RTL.
Extrait de l'émission Mixup, Droits de l'homme et chômage. Interview de Paul Pasterman, 1987.
Paul Pasterman, co-auteur du livre Les droits et les obligations des chômeurs, paru chez Labor, au micro de Mixup.
Et qu'est-ce qui frappe surtout quand on resitue une réglementation comme la réglementation du chômage en Belgique dans un contexte de droits de l'homme, de droits européens?
Bon, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Disons, ce que moi j'ai appelé les droits de l'homme, c'est surtout les principes généraux, disons, de notre droit, les principes de bonne administration, les principes de droit de la défense et tout ça. Alors là, il y a quand même deux problèmes qui pour moi sont manifestes. C'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'obscurité de passage entier de la sécurité de la législation, qui font que le chômeur, sur des points importants et d'application vraiment tout à fait quotidienne au jour le jour, que c'est pratiquement impossible de lui dire de façon certaine, voilà tes droits et voilà tes obligations. Ce qui pose un très gros problème, disons, de crédibilité de la sécurité sociale, quand on voit des gens qui subissent des sanctions quand même très très lourdes, donc devoir rembourser des dizaines de milliers de francs d'allocation de chômage, subir des périodes d'exclusion, simplement parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le maquis, bon, c'est scandaleux, enfin. Le deuxième problème concerne la protection des droits de la défense du chômeur vis-à-vis de l'administration. Et un aspect, par exemple, que nous soulignons dans le livre, c'est les demandes de récupération d'allocations indues. Donc il arrive, bien entendu, que l'administration se trompe, c'est-à-dire accorde des allocations auxquelles l'intéressé n'a pas droit. Quelle est la procédure à mettre en œuvre à ce niveau-là? Quels sont les recours dont le chômeur bénéficie? Ce sont des points élémentaires sur lesquels vraiment il faut fouiller la réglementation, il faut essayer de l'interpréter, il faut essayer de lui donner une cohérence, mais il n'y a pas de réponse claire dans des textes bien formulés, quoi. Ça, ce sont, disons, ça, c'est certainement deux exemples.
L'année passée, quand j'étais môme, chantais mon plat pays petit. Et plus je regarde l'atomium, et plus il me coupe l'appétit. Avec ses neuf poulets immondes, plus ravagé que la tour de Pise. J'habite dans la seule ville au monde dont le fétichouin m'équipise. Sous l'atomium, il y a les Belges. Belges, ça ne rime avec rien. Pour changer d'air, je change d'auberge, voir au moins s'il y a des terriens. Noble Belgique, terre d'eau chérie.
Les années 80 voient les radios commerciales faire de plus en plus appel à des journalistes professionnels pour leurs émissions d'information et les éditeurs de presse créent leur propre réseau de radio. La logique du profit prévaut sur toute autre perspective. L'AGJPB, Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique, ajoute son grain de sable pour condamner l'amateurisme journalistique et pour refuser toute prestation journalistique qui ne serait pas correctement rémunérée. De Bavure, en 1983, alimente sa montée au créneau. À Liège, une radio interprète de manière aussi farfelue qu'irresponsable le tremblement de terre et plonge ses auditeurs dans la panique. À Bruxelles, Radio Contact provoque, en propageant de fausses rumeurs de pénurie d'essence, la ruée sur les stations-service. Notons bien que ces bavures émanent de radios commerciales. Les conséquences atteindront cependant les radios non commerciales. En effet, suite au lobbying de l'AGJPB, le décret du ministre Monfils en 1988 exigera de toutes les radios qu'au moins deux journalistes professionnels participent à l'équipe de rédaction ou du moins la supervisent. C'est un coup dur pour les radios de l'ALO qui n'ont évidemment pas les moyens de se payer les services de journalistes professionnels. Et puis, que va-t-il rester de l'idéal des radios libres du début ? L'idéal de l'auto-information des habitants ou des citoyens via l'auto-expression de tous ? Thierry Couvreur conclut son étude « Presse écrite quotidienne et radio locale en Belgique francophone » approche des moyens rédactionnels entre les deux médias, avec cette remarque tout à fait pertinente.
Le retour des professionnels dans les radios va peu à peu rétablir un schéma de communication ancien dans lequel l'échange ne se produit pas. Les journaux parlés, réalisés par des professionnels, font perdre toute une approche des choses que les citoyens animateurs pouvaient apporter. En effet, ce dernier, devant d'abord s'informer lui-même complètement, aura tendance à expliciter et à commenter les nouvelles qu'il transmet.
Quel sera l'avenir de l'information sur les radios libres d'expression apparemment battues à deux niveaux, celui de la légitimité journalistique et celui de la forme médiatique elle-même? À titre d'exemple, nous allons décrire l'expérience de Radio Panique. Cette expérience est relativement originale puisqu'elle a tenté de se tenir à égale distance de deux excès, l'amateurisme cultivé comme l'expression de la vérité d'une part, le professionnalisme imposé comme culture de l'information d'autre part.
Extrait de l'émission Mix Soup, publicité et enfants, interview de Pierre Gréga du CRIOC.
Début février, le CRIOC organise un colloque sur l'éducation des jeunes consommateurs, un colloque destiné aux parents et aux enseignants. À cette occasion, Mix Soup reçoit Pierre Gréga du CRIOC.
Les organisations de consommateurs remarquent quand même de plus en plus souvent qu'on utilise ces enfants pour inciter les parents à l'achat. C'est vrai que si une publicité dit à un enfant ou dit aux jeunes « Voyez un peu comme il est bon d'avoir telle ou telle voiture », même cette forme de produit qui n'est pas destiné directement aux enfants va chercher l'enfant pour inciter les parents à l'achat. C'est vrai que si l'enfant commence à scier les côtes de papa ou de maman pour avoir telle ou telle grosse bagnole parce que là-dedans on peut aller à 5-6 ou qu'on peut rouler à du 250 à l'heure, quelque part il a une influence sur l'achat des parents. C'est encore plus évident quand vous baladez dans les grandes surfaces. Combien de fois on peut remarquer qu'un enfant amène dans la charrette d'une maman tel ou tel produit alors que la maman n'en voulait pas et qu'elle se bagarre parfois entre les rayons pour imposer à l'enfant de renvoyer ce produit dans le rayon. Mais petit à petit, l'enfant parvient à mettre dans la charrette des produits qu'il a envie d'avoir et qu'il a envie d'avoir parfois parce qu'il en a besoin, mais souvent parce qu'il les a vus à la radio, à la TV, parce qu'il y a des gens qui en ont parlé, il y a eu de la publicité là-dessus. Donc je vous dis, dans un premier temps, l'enfant est lui-même l'incitant à l'achat. Une deuxième chose, c'est que parfois aussi, l'enfant devient cobé. Dans les publicités, les organisations de consommateurs remarquent combien on utilise de plus en plus l'enfant comme élément de la publicité, et parfois pas tellement pour des produits qui sont tellement destinés aux enfants. Vous vous rappelez sûrement d'un papier de toilette que l'enfant déroulait très longtemps dans les publicités télévisées. C'en est une, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et je veux dire, on utilise de plus en plus l'enfant pour montrer combien ce produit est intéressant, attrayant, combien il est beau, il est sympathique. Et donc, on en fait un enfant cobé. Et en troisième lieu, on cible l'enfant de plus en plus. C'est vrai qu'avant la publicité, si je reprends la publicité TV, parce que c'est celle qu'on voit le mieux, dont on se rappelle le plus, c'est vrai qu'avant la publicité était assez générale. Maintenant, vous avez des émissions pour enfants, et dans ces émissions pour enfants, on entrecoupe l'émission de toute une série de publicités directement destinées aux enfants. Si vous regardez la TV le matin, un dimanche matin de 8 à 10, une TV qui fait passer de la publicité, vous verrez combien dans ces émissions pour enfants, il n'y a que de la pub pour des friandises, pour des jouets, pour des vêtements pour enfants. C'est vrai que c'est là aussi un élément important. Donc, trois choses. L'enfant comme incitant à l'achat, il accroche ses parents pour acheter. L'enfant comme objet de publicité et l'enfant comme acheteur potentiel pour une série de produits comme les nourritures, les bonbons, etc. C'est donc là trois choses sur lesquelles les organisateurs de consommateurs se rendent compte combien la publicité a fait des progrès, a avancé et force un peu plus encore les enfants à acheter des choses qu'ils n'ont pas nécessairement toujours besoin.
Deux magazines d'information générale se sont succédés sur Radio Panique jusqu'en 1987. Courrier 1030, puis Mixsoup. Ces magazines, cependant, ne monopolisent pas l'information sur notre station. Toutes les émissions ont, peu ou prou, une part d'information, qu'elle soit thématique, donc spécialisée, relative à un secteur culturel ou musical, ou spécifique, c'est-à-dire ciblée par une communauté spécifique. Dans le cadre de cette réalisation, il m'est impossible d'apporter une analyse complète sur l'aspect informatif de toutes ces émissions. Seulement quelques observations. Notre programmation comporte, hélas, très peu d'émissions thématiques autres que des émissions musicales, indissolublement mariées à l'une ou l'autre subculture, à la mode ou non. Exception notable néanmoins, les émissions qu'on peut considérer de service, comme l'émission d'Infor Jeune ou Self-Service, ou encore l'émission homosexuelle, ou enfin Flash Culture, l'émission de la JOC, dont les contenus d'information sont généralement assez fouillés. Hélas, en 1985-86, elles ont toutes disparu. Il me semble désormais que les émissions musicales n'apportent généralement aucune information, et en tout cas aucune information intéressante pour ceux qui ne sont pas déjà immergés dans la subculture prise en compte. Les interviews, quand interview il y a, sont des interviews de complaisance ou de promotion pour l'invité. Les animateurs de ces émissions sont avant tout des disjockeys, incompétents ou mal à l'aise dans le secteur de l'information. Dans ces premières années de la radio, une exception de taille, qui ne cessera de se confirmer par la suite, l'émission Jazz Blues de Philippe Dubois. Chaque musique présentée est mise dans son contexte non seulement musical, mais aussi social, parfois de façon critique. La somme de toutes ces émissions pourrait constituer une véritable anthologie. Le ton de la voix grave de Philippe Dubois et même son accent bruxellois confèrent à ces émissions un certain style inimitable. Quant aux émissions dites spécifiques, de représentants de communautés d'origine non belge, l'information s'exprime très généralement dans la langue d'origine. Seule exception importante, l'émission de Babor, laquelle sous la houlette de Khalil Zegwendi, utilise le français. L'information est orientée par une option démocratique et par le souci d'apporter un adjuvant au processus d'intégration des immigrés maghrébins à la société belge. Khalil pratique l'interview et invite beaucoup de responsables et de témoins. L'autre émission maghrébine, Saout al-Mouahar, se déroule en arabe et l'information est davantage orientée sur la situation sociale et politique au Maroc. Les émissions turques apportent très peu d'informations et ce sera un des sujets de friction avec la direction de la radio. Les émissions kurdes et arméniennes sont des émissions de mouvements politiquement engagés. L'information est militante et mobilisante. Sakip Skepi, animateur de l'émission albanaise, concentre son information sur l'Albanie et le Kosovo. Ses préjugés anticommunistes et patriotiques sont notoires, mais pour autant que nous puissions en juger, il ne l'amène pas à se départir d'une certaine neutralité comme informateur. La pratique de l'animation, ainsi que l'évolution de l'Albanie, permettront à Sakip Skepi à traiter l'information d'une manière de plus en plus élaborée et même professionnelle.
Extrait de l'émission Mixoup, Michel Dermine sur le drapeau rouge, 1986.
Michel Dermine du drapeau rouge.
Depuis tout un temps, il est apparu que le journal ne pouvait pas être, ne pouvait pas être le moniteur, comme je l'ai dit, d'un parti, quel que soit d'ailleurs le journal et quel que soit d'ailleurs le parti qu'il peut représenter. On n'a pas la vérité révélée tout seul, et cette vérité, encore faut-il qu'elle soit partagée pour qu'elle devienne effectivement une vérité intéressante. Par conséquent, il nous est apparu intéressant justement de s'adresser aux autres, de faire participer les autres à la rédaction du journal, pas à sa fabrication en tant que telle, mais en tout cas, comme je l'ai dit, avoir un espace dans lequel ils puissent s'exprimer. Ça nécessitait une révision de tous les concepts, je dirais, qui avaient jusque-là guidé la fabrication, la rédaction du journal. Il y avait aussi des problèmes qui se posaient depuis très longtemps d'ouvrir, de faire éclater les rubriques, parce que je ne dis pas qu'il y avait sclérose à ce niveau-là, mais il y avait de plus en plus constat au niveau de la rédaction que certains thèmes, et parfois très importants, étaient soit maltraités, soit pas traités du tout. Par conséquent, il était important donc de changer, et en tant qu'affaire changer, autant le faire, je n'oserais pas dire, dans les grandes largeurs, c'est peut-être pas une très belle expression, mais en tout cas, de repenser complètement et la présentation et la façon de rédiger les articles, et aussi, bien entendu, de voir le public auquel on s'adresse, d'essayer qu'il soit le plus large possible. Le public, bon, c'est clair que le journal n'a pas une vision, je dirais, n'a pas la possibilité, je dirais, de par les thèmes qu'il traite, de par la façon dont il aborde les problèmes, le journal n'a pas la possibilité d'avoir une immense diffusion parmi la population. Il reste malgré tout un journal pour gens, disons, conscients, encore que je n'aime pas très ce terme, qui est assez péjoratif ou qui peut apparaître péjoratif pour certains, mais disons des gens qui sont des militants, quel que soit le lieu ou l'endroit ou le thème, je dirais, sur lequel ils militent. Parce qu'on peut militer dans les syndicats, on peut militer dans les entreprises, on peut militer dans les partis, on peut militer dans les problèmes d'environnement, de contraception, bref, disons, tous des thèmes ou toute une série de thèmes qui sont importants et sur lesquels, justement, il n'existe pas tellement de possibilités de s'exprimer.
Courrier 1030 est d'abord un journal mensuel diffusé depuis 1981 dans les communes de Skarbek et de Saint-Josse. Il veut traiter l'information locale de manière non localiste en la resituant dans un contexte plus global, intégrant les éclairages économiques, sociaux, politiques et culturels. Il est bien sûr indépendant des pouvoirs politiques et des groupes financiers. Né au confluent d'une politique de santé mentale publique intégrant la prévention, la SBL La Gerbe d'alors, et de l'engagement dans le front antiraciste de Skarbek, le courrier 1030 nage en pleine idéologie de la convivialité active, comme c'est le cas pour les premières radios d'animation. Il se veut complémentaire à la grande presse en mettant à l'avant-plan là où les manières dont les habitants vivent les problèmes ainsi que leur participation,
chaque habitant est appelé à informer, témoigner, écrire, dessiner dans le journal.
Tout au début de cette série d'émissions, j'ai indiqué comment le Crayon Libre, l'association éditrice de Courrier 1030, a estimé que son objectif de promouvoir l'auto-expression des habitants citoyens pouvait mieux se réaliser via le média de la radio. C'est même comme cela que Radio Panique est née fin 1983. L'émission Courrier 1030, au départ, est animée par une dizaine de personnes. Il n'y a aucun journaliste professionnel dans cette équipe. À part moi-même, il n'y a personne non plus de l'équipe du mensuel écrit. J'apporte avec moi une pratique de 2 ans de type journalistique. On n'a conservé aucun enregistrement des émissions de Courrier 1030. L'équipe s'est dissoute après quelques mois. Pourquoi ? Il y a évidemment ces problèmes d'audience dans la jungle des ondes qui ont déjà été longuement évoqués. Il y a aussi que nous avons sous-estimé la somme de travail nécessaire pour alimenter et animer un tel magazine. Une fois l'excitation des débuts retombée, plus personne ne veut persévérer, car cela pompe trop d'énergie. C'était vraiment une équipe d'amateurs bénévoles. Dès 1985, on veut mettre en route un nouveau magazine. À la fin de la même année, on l'a vu, Radio Panique se décline à 2 vitesses. Le nouveau magazine appelé Mixup sera situé dans les heures appelées Heures Radio Panique. Les heures en principe si représentatives des objectifs de la station qu'elles ne donnent pas lieu à des cotisations. Ce n'était pas encore le cas pour Courrier 1030. Le plaisir de faire une émission se paye à Panique. Mais tenter de faire de l'information dite alternative n'est peut-être pas un plaisir. C'est même quelque part un devoir.
Extrait de l'émission Mixup, Edwin de Schepper sur De Morgen, 1986.
Que se passe-t-il quand le parti bailleur de fonds d'un quotidien d'opinion cesse de payer ? Edwin de Schepper, actif dans la campagne pour sauver De Morgen de la faillite.
Ben, le journal De Morgen est un peu l'héritier de certains journaux qui dépendaient directement du Parti socialiste flamand, comme le Vooruit et de Volksgazette. Mais disons, avec ceci de différence, c'est que dès le début, De Morgen s'inscrivait dans une ligne plus ouverte du SP à ce moment-là et avait aussi, par rapport aux socialistes qui se partaient, beaucoup plus d'indépendance que n'importe quel journal de parti pourrait se le permettre. Ce qui fait qu'il était donc lu avec sympathie aussi par des gens qui n'étaient pas vraiment membres du SP, mais qui gravitaient dans les syndicats ou dans la gauche flamande, et même lu avec une certaine sympathie par des bilingues bruxellois ou des semi-bilingues bruxellois, qui retrouvaient plus dans De Morgen une certaine opposition, par exemple, contre les fusées, qu'ils n'auraient pu le trouver dans Le Peuple, par exemple. Alors, pour les fusées, je crois que ce n'est pas une coïncidence. C'est un fait politique, que c'est certainement quelque chose qui a motivé des gens comme Van Miert, après leur tournant, de presque 180 degrés concernant les fusées, en partant d'une position très dure sur ce point-là. Le SP, tout d'un coup, a pensé à ce qu'un jour, il devrait gouverner avec le CVP et qu'il devrait donc poser le problème en termes un peu plus acceptables. Disons, Le Morgen n'a pas suivi ce tournant à 180 degrés. Il y a eu à ce moment-là une interview avec Van Miert et Paul Gossens, où Paul Gossens visiblement prenait les gants parce que, il n'était pas trop méchant. Si Daniel Ball, qui interviewait nos ministres à la BRT, avait pris Tindemans avec les mêmes gants, il n'aurait jamais eu de problème. Mais disons, sur la même page, il y avait le fameux dessin de Zach, où on voyait des ouvriers faisant des pancartes pour le SP, où le slogan était prévu pour 6 jours de suite, un peu différent, hein, donc allant de pas de fusée jusqu'à pas trop de fusée ou pas trop de fusée tout de suite ou moins de fusée. C'était donc la caricature était. Et je crois que les gens finalement ont beaucoup plus retenu la caricature que la page d'interview de Paul Goossens avec Van Miert. Van Miert aussi d'ailleurs, il a plus retenu la caricature. Les difficultés financières de Morgan sont un peu structurelles dans ce fait que pour être réellement à l'aise, un journal comme de Morgan devrait atteindre 60 000 abonnés. Donc si le Morgan un jour atteint les 60 000 abonnés, c'est une affaire rentable. Jusqu'ici, il faut reconnaître que le SP, les mutualités, les syndicats côté ABVV, donc FGTB côté flamand, a financé en partie de Morgan, a soutenu le Morgan. Et disons que ce qui était surprenant, c'est qu'au moment où une relance du Morgan Sand était entamée, que c'est à ce moment-là que très brutalement la décision est tombée, notamment dans les milieux du SP, de ne plus soutenir. Hein, donc, de Morgan, je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Disons, c'est aussi un journal, c'est une affaire de gestion. Je crois qu'il y a pu y avoir dans le temps des fautes de gestion au Morgan. Je crois que pour le moment, dans sa période de faillite, le Morgan est géré beaucoup plus professionnellement qu'il ne l'a jamais été.
Et qu'est-ce qui explique cette difficulté de la presse progressiste à s'implanter et...
Je crois que ce qui explique cette difficulté, c'est que la presse actuellement dépend beaucoup plus des annonceurs que de ses lecteurs pour subsister, pour vivre, que le prix que paye le lecteur ne couvre pas le tiers, je crois, du prix de revient d'un journal, et c'est valable pour n'importe quel journal. Et que, disons, les annonceurs ont une tendance assez classique, aussi bien en publicité écrite qu'en publicité sur la radio ou qu'en publicité sur les affiches, de considérer la publicité comme quelque chose de massif, donc de s'intéresser uniquement aux grands journaux. Donc pas un journal de gauche débutant ou un journal de gauche dont le tirage serait trop bas. Pour le moment, le Morgan fait un peu exception et attire pas énormément de recettes publicitaires. Par un certain dynamisme, parce qu'il y a une campagne, parce que, disons, pour les annonceurs, les capitalistes de la pire espèce, il est intéressant en ce moment de lier leur nom au Morgan, parce qu'ils sont sur une espèce de vague qui est portée. Aussi, disons, sur le plan, avec la nouvelle formule qui avait déjà commencé il y a quelques mois, de Morgan était très bien introduit dans le milieu des publicistes flamands, parce qu'il, disons, il y avait déjà une équipe nouvelle qui travaillait pas mal là-dessus, qui travaillait sur la forme, sur les idées, et où il y avait un dynamisme certain et, disons, assez percutant, aussi dans la direction de la gestion de la publicité. Disons, et je crois que si le Morgan va survivre, il survivra comme journal indépendant. Hein, disons, le Parti Socialiste aura une participation de 10%, le SP, et où le reste, ce sera soit capital privé, dont on ne sait pas encore d'où il proviendra, et le capital réuni par les lecteurs. Parce que ça, il faut souligner, disons, l'action 1000 fois 100 000 est une action qui est en train de réussir. Disons, ça a été lancé par De Morgan, par, disons, Van den Broek et Klaus, par des auteurs. C'est donc une idée de poète, disons, rassembler 1000 fois 100 000 francs. Et disons, je crois que pratiquement personne y a cru au début, mais disons, le fait et le phénomène, c'est que ça réussisse, ça crée une vague de fond. Et disons, j'ai parlé avec des rédacteurs du Morgan, c'est assez étonnant. Il y a des communes où on n'a jamais vendu de Morgan directement parce qu'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de magasin de journaux. Il y a des communes où il y a des gens qui prétendent maintenant se réunir 100 000 francs pour soutenir de Morgan. Et je crois que c'est doublement intéressant pour le capital qui est ainsi apporté et aussi pour l'avenir de ce journal parce que ça lui crée une base.
Le magazine d'information générale Mixed Soup naît en 1986 à un rythme hebdomadaire puis quotidien hors week-end. Il est supposé être une vitrine de la station, une application exemplaire de ses objectifs. De l'équipe de Courrier 1030, reste Luc Roussel, journaliste pigiste à la Cité, et moi-même. Collabore aussi au magazine Rita Van Hout, active à la Chaumière, lieu d'accueil des chômeurs à Schaerbeek, Stéphane Lepoutre, rédacteur au bulletin national de la CSC, le CSC Info, et Philippe Livreau, très inséré dans le milieu sociopolitique alternatif. Carlos D'Amata participe de temps à autre. Laetitia de Quételard et Nathalie Favé compléteront l'équipe dès le début 1987. Et on s'organise. Il y a évidemment de fréquentes réunions de coordination et de secrétariat de rédaction. Il y a un responsable de rédaction et d'animation pour chaque jour de la semaine. Chaque responsable choisit les événements dont il veut parler et les invités qu'il interviewera. Chacun note ses projets et les sommaires de ses émissions dans un classeur, de sorte qu'il n'y ait pas de doublé. On a tiré comme leçon de l'échec de Courrier 1030 qu'il ne faut pas imposer un plan rédactionnel complet aux animateurs bénévoles. Il faut sélectionner des axes de travail en fonction des activités, des intérêts et des envies de chacun d'eux. C'est ainsi que nous définissons 5 centres d'intérêt principaux. Premièrement, les mouvements sociaux dans l'agglomération bruxelloise. Deuxièmement, les immigrations dans l'agglomération bruxelloise perçues dans une problématique nord-sud. Troisièmement, les jeunes et leur subculture. Quatrièmement, la création culturelle à Bruxelles. Cinquièmement, les médias et leur évolution. Mixup privilégie les interviews, les rencontres, les mini-débats. Il y va toujours de l'option pour l'auto-expression des acteurs ou des témoins d'une situation, d'un événement, d'un mouvement. À l'animateur du jour de veiller, par son questionnement, à ce que les témoignages aient une signification plus large et communiquent réellement une information. En fait, nous ferons de plus en plus souvent appel à des personnes engagées dans le milieu associatif progressiste de la ville. Par rapport à Courrier 1030, Mixup affiche une tendance à une information plus alternative, plus militante aussi. On pourrait dire qu'on valorise une problématique générale des droits de l'homme et de ce qu'on appellera plus tard la citoyenneté responsable. Les permanents de la radio, moi-même, puis dès le début 1987 également Laetitia, sont chargés de la préparation matérielle des émissions. Un florilège des moments considérés les meilleurs est monté tous les 3 mois. Ce sont des mix-up spéciales, cassettes de 60 ou de 90 minutes, disponibles pour qui le désire. Ces cassettes sont également proposées pour diffusion à d'autres radios. C'est moi-même qui m'occupe de confectionner mix-up spéciales. C'est ma première expérience de mixage et de montage. Elle s'opère avec les moyens du bord, sur un deck lecteur de cassettes ordinaire.
Extrait de l'émission Mixup. Interview de Karl Van Doren sur La Cité, 1986.
Karl Van Doren, chargé de la promotion de La Cité.
J'avais vraiment une envie d'essayer de provoquer et d'amener le retour des jeunes à la quotidienne, à la presse écrite. Et donc nous avons essayé d'imaginer un tout nouveau concept rédactionnel. Ce n'est pas uniquement un changement de look, un changement, un ravalement de façade. C'est vraiment une toute nouvelle approche rédactionnelle, dont je crois qu'on peut dire sans s'orgueillir qu'on est les premiers, peut-être en Belgique francophone, à adopter pareille politique rédactionnelle. Mais nous avons quand même des exemples, et nous sommes, pourquoi le cacher, inspirés de l'exemple extraordinaire de De Morgan, qui a réussi à séduire un tout nouveau lectorat et un lectorat jeune. Ils ont une augmentation en 2 ans contrôlée de plus de 53 000 lecteurs. C'est le seul journal en Belgique qui enregistre une augmentation aussi importante. Nous sommes également penchés sur l'évolution de la presse quotidienne en France. C'est l'expérience de Libération. Mais c'est aussi toute l'évolution de l'Humanité, de La Croix, du quotidien de Paris, du Matin. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait ici en Belgique une sclérose très très importante dans la quotidienne. Vous savez, on parle toujours du groupe Hersan et de la domination du groupe Hersan sur la presse française. Mais renseignez-vous et essayez de vérifier un peu pour voir quelle est l'audience du groupe Rossel en Belgique. Elle est bien plus importante que le groupe Hersan. Et c'est peut-être aussi, c'est peut-être ça qui nous a donné l'envie de faire vraiment un quotidien radicalement différent, à l'écoute des passions des hommes et des femmes d'aujourd'hui, à l'écoute également de leurs attentes en matière culturelle, en matière sociale, leur donner vraiment une information telle qu'on la voit peu dans les autres médias. Et le comité de direction s'est rendu compte que si on voulait sauvegarder la presse d'opinion en Belgique francophone et singulièrement le journal La Cité, il était important d'apparaître comme moins dogmatique, encore que il faut préciser qu'il y avait une très très grande liberté rédactionnelle des journalistes par rapport au mouvement qui apporte partiellement des capitaux pour la réalisation de ce quotidien. Mais nous avions voulu encore davantage obtenir une indépendance et montrer notre capacité de prendre davantage de recul, de donner aussi une information avec humour, même si elle concerne le devenir d'organisations composant le mouvement ouvrier chrétien. Et donc nous avons demandé de ne plus du tout apparaître comme La Cité pouvait apparaître dans certains milieux, à savoir la Pravda du mouvement ouvrier chrétien. Nous avons voulu vraiment essayer d'obtenir davantage d'indépendance et de le montrer tous les jours. Et je crois que finalement, le mouvement ouvrier chrétien s'y retrouve dans la mesure où il gagnera à terme une audience beaucoup plus grande qu'il avait perdue au fil des années.
Dans l'église, malgré les adeptes du latin, les cures ton s'américanise, ça devient de plus en plus certain.
En été 1986, nos deux animateurs du mouvement ouvrier chrétien, Luc Roussel et Stéphane Lepoutre, nous alertent au sujet d'un projet de régie élaboré par la section médias du mouvement ouvrier chrétien en liaison avec le quotidien du mouvement La Cité. Ce quotidien va mal. Il est à la recherche d'un souffle neuf et surtout de nouveaux publics. Le projet de régie, qui s'appelle AMA, intègre une dimension audio. N'oublions pas qu'à l'époque, pratiquement tous les éditeurs de journaux lorgnent du côté des radios. Radio Panique, qu'une bonne partie de ses responsables voudraient voir sortir de l'amateurisme de ses débuts, ne pourrait-elle pas devenir le pôle audio de la nouvelle régie? On participe aux discussions. En octobre, il est décidé d'expérimenter la formule projetée. On va réaliser une quadruple réalisation simultanée sur un même thème avec quatre supports différents, affiches, journal, photo et cassette sonore. Stéphane Lepoutre réalisera la cassette à partir d'interviews enregistrées lors d'un colloque de vie féminine sur le thème de l'évolution de la consommation. Il est à signaler que certains, dont Carlos Tamata et Philippe Livrand, ont des réticences à s'engager dans un processus qui pourrait signifier la récupération de Radio Panique par un mouvement chrétien qui mettrait en péril son pluralisme et son indépendance. Moi, je pense que l'affaire est jouable, parce que l'argument selon lequel ce processus nous ferait sortir de notre crise récurrente, en cette époque, me semble le plus important pour l'avenir. Finalement, le projet échoue. La régie AMA ne verra jamais le jour. Est-ce pour des raisons pragmatiques ou et idéologiques? Je n'en saurai jamais rien. Son protagoniste, Karl Van Doren, s'en va à Namur, appelé par le journal Vers l'avenir. La Cité, elle, est en pleine déconfiture et cessera bientôt d'exister comme quotidien.
Extrait de l'émission Mixup, Yann Panique à Radio Panique.
Mars 87, rencontre prédestinée entre Radio Panique et Yann Panique.
Mon nom est Yann Panique et ça n'a rien à voir avec la radio, mais enfin c'est un hasard. Et je suis chorégraphe et musicien et je présente actuellement au Nouveau Théâtre de Belgique, Place des Martyrs, un spectacle qui s'appelle On Your Toes, Susie, qui est un spectacle solo dont j'assume la chorégraphie et la musique.
Alors, ton maître de danse est Merce Cunningham, qui est à la Dance School. Qui est-ce?
Alors, Merce Cunningham est un des grands maîtres contemporains de la danse américaine. Et il a une école à New York, à Manhattan, qui s'appelle le Merce Cunningham Studio, à laquelle pas mal de gens vont se spécialiser après avoir fait des études en Europe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des études classiques en Belgique et puis je suis partie là-bas me spécialiser pour être chorégraphe. Et puisque quand on fait la chorégraphie, il faut faire aussi de la musique, j'ai appris les deux là-bas. S'il y a une influence, ce serait plutôt DAF. Et tout ce qui est la new wave anglaise, ainsi que des gens tels que Meredith Monk, au niveau de la voix, ça c'est sûr qu'il y a une influence, puisque j'ai travaillé avec elle.
Et tu n'as pas des influences de David Bowie?
Ah oui, ça sûrement. Disons, moi je suis un peu la génération après Bowie, parce que bon, disons que moi, Bowie, c'était déjà consommé quand je suis arrivée à l'âge d'aimer certaines choses. Oui.
Enfin, tu as vécu Bowie quand.
J'ai vécu jeune, Bowie quand ça marchait très fort pour lui. Moi, j'avais 12 ans, je veux dire. Quand j'avais 15 ans, c'était plus tellement Bowie, c'était déjà d'autres personnes, quoi.
Et on dit aussi de toi que avant tu te coupais avec un couteau, un rasoir et tout sur scène. Tu te coupais vraiment ou c'était ça?
Non, ça c'était. Ce sont les articles publicitaires. Uh-huh. Disons que j'ai fait mon. Non, parce que j'ai encore 10 doigts.
C'est pour ça que j'ai des cicatrices. Moi,
non, c'est vrai que je me suis coupée une fois. J'ai 5 points de suture dans la cuisse droite parce que je faisais un acte qui s'appelle la danse des couteaux à New York, qui était mon travail de fin d'études chez Cunningham et qui était toute une étude des mouvements dangereux et de la violence dans le mouvement. Je suis très intéressée par ça, par tout ce qui est cascade, films d'action, j'adore ça.
Et donc, pourquoi tu comptes tourner des films aussi?
Je ne sais pas, non, on n'en est pas encore là, mais je veux dire, je suis très intéressée par tout ce qui est l'approche violente du mouvement, parce que je crois que même dans la danse et dans tous les arts, même dans les arts plastiques, cette violence ressort tout à fait. On vit une époque très 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 violente. Et dans le mouvement, c'est très intéressant. Et donc, je faisais cette danse des couteaux. Et il est vrai qu'il m'est arrivé, lors d'une représentation publique, de faire un faux mouvement et de me mettre le couteau dans la cuisse et de devoir être transportée devant tout le monde à l'hôpital parce que, ben voilà, oui. Donc c'est vrai que, oui, je me suis lacérée une fois, bon, mais c'est pas supposé. Je ne découpe pas une partie de mes membres tous les soirs.
Il y a des gens qui se crucifient sur scène ou des choses comme ça.
Ah non, ça je trouve ça de très mauvais goût. Je crois que j'aime bien les gens qui font des choses dangereuses mais qui en sortent tout à fait OK après et qui peuvent avoir un bon sens de l'humour après et en rigoler, quoi. Je veux dire, même d'en faire une parodie. Non, je déteste tous ces gens qui boivent du sang sur scène, qui se crucifient, tout ce côté. Non, moi, je ne supporterai pas. J'aime bien quand c'est faux, quand c'est grand guignolesque. Vraiment, alors là, ça, c'est très drôle parce qu'on sait que c'est faux, quoi. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'humour qui peut s'y mettre, mais...
Une autre tentative de synergie est poursuivie en cette année 1986 par Radio Panique. Des contacts sont pris avec l'agence de presse Libération, l'APL, depuis le mois d'août. Cette agence est née dans la mouvance de mai 1968 et a, sans discontinuer, publié un bulletin d'information brut, très alternatif. Elle passe alors par une phase de restructuration. Son fondateur et moteur, Pascal Delaunoy, est parti vers d'autres horizons. Le bulletin ne paraît plus. Les informations sont communiquées par téléphone aux abonnés. L'APL se tourne alors vers des radios comme la nôtre pour poursuivre autrement sa diffusion d'informations. Il est à noter que l'APL a archivé de manière exceptionnelle tout ce qui concerne l'information alternative et possède un réseau assez important d'informateurs. Dans un premier temps, il est décidé que l'APL ouvre une permanence téléphonique chaque jour de 16 à 18 heures à l'adresse des radios. Et effectivement, pendant un certain temps, l'animateur du jour de Mixup téléphone à l'APL et reçoit des informations. Mais bientôt, on cessera d'appeler. En effet, le permanent de l'APL nous paraît plus préoccupé par son archivage que par l'alimentation de vraies informations alternatives. Et surtout, ce permanent ne connaît bien qu'un seul secteur, le Zaïre, et n'est productif que dans cette seule spécialité. Du côté de l'APL, par contre, le permanent se plaint du fait que les radios pensent davantage à pomper de l'information qu'à participer à la reconstruction d'un réseau. Bref, un estropié et un aveugle ensemble, ça ne marche pas nécessairement bien. L'APL est alors une association reconnue par le ministère de la Culture. Théoriquement, elle pourrait, sur base de projets d'activité, avoir de nouveaux subsides en personnel. Certains pensent à panique qu'il faut pousser cette opportunité en la mettant en liaison avec le projet de régie AMA, dans le cadre de notre radio. Cela non plus n'aboutira pas. La personne chargée d'aller jusqu'au bout de l'opportunité n'aurait pas bien fait son boulot. De manière plus générale, nous intensifions alors nos contacts avec des organes de presse représentant les intérêts des citoyens et des habitants, comme le Ligueur, Ville et Habitants, Testachat, le Crioc, etc., en vue à terme de devenir leur répondant sonore. Faire ce que fera Radio Zazine en France, avec notamment le monde diplomatique. Pour aboutir, cette piste intéressante et peut-être rentable aurait exigé un travail plein temps. Or, un plein temps rémunéré pour ce travail, nous ne l'avons pas et nous ne pouvons pas l'avoir. Moi-même ne peux ajouter une telle activité aux charges qui sont déjà les miennes.
Extrait de la réalisation du magazine Mixup. Les écolos sont-ils toujours ce qu'ils sont ?
La démission d'Olivier Deleuze était une démission pour des raisons de divergence politique, ce qui est, à mon avis, quelque chose de normal dans un parti politique. Il y a à un moment donné des divergences sur la stratégie à suivre. C'est quelque chose de normal. Je regrette personnellement qu'il ait démissionné à l'époque. Pour le cas de Georges Dutry, c'est autre chose. Georges Dutry, je crois, a toute une série d'arguments de type personnel et de perçus de la vie parlementaire qui font qu'il juge qu'il n'est pas, il ne se sent pas bien à continuer ce travail.
À l'heure actuelle, nous jouons notre rôle de façon indépendante au sein du Conseil régional. Nous avons voulu faire une expérience qui était difficile à faire pour nous, et les faits ont prouvé qu'elle était difficile à faire pour nous, mais nous pensions que vis-à-vis de nos électeurs, nous devions faire le maximum pour arriver à réaliser une partie de notre programme, si nous ne cédions pas sur des choses importantes, bien sûr. Ça ne s'est pas fait, nous continuons à travailler dans le même sens, mais par d'autres moyens.
Je n'ai jamais été partisan d'une alliance avec le PRL et le PSC, et ce n'était d'ailleurs pas de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait plutôt d'une utilisation de la position stratégique que nous avions, qui était la suivante. Le PSC et le PRL ont une majorité très courte, et ils nous ont demandé si, en échange d'une série de dossiers qui nous sont chers et qu'ils auraient accepté de faire évoluer, nous aurions accepté de siéger. Donc ça n'est absolument pas un accord politique. Il n'y avait pas d'accord politique avec le PRL et le PSC, il faut être sérieux.
Quand je dis écolo est un parti de centre-droit aujourd'hui, un parti centré sur les institutions, je ne veux pas insulter les individus qui y sont. Je crois que des gens y sont très sincèrement en pensant qu'ils vont changer quelque chose. Mais je crois que ce sont des gens qui n'ont pas d'analyse politique, qui n'ont pas de réflexion politique. Ça, c'est pas leur faute. Et je pense que l'expérience en amènera un certain nombre à changer de point de vue.
Il est clair qu'aujourd'hui, il faut que nous changions notre façon de nous adresser aux citoyens et peut-être aussi notre façon de fonctionner. Ça, c'était le but d'un audit interne qui a été fait et exposé lors de notre dernière assemblée.
Mais je crois que le mouvement écolo a démarré très vite. Il s'est constitué une base très vite, et une base militante, et qu'un certain nombre de militants n'ont pas réussi à s'intégrer parfaitement dans le mouvement et n'ont pas compris toute la démarche. Bon, qu'à un moment donné, nous vivions un problème d'adolescence, je crois que c'est un fait, et comme l'adolescence, dans les faits, est un moment transitoire, je crois que cette période est transitoire. Donc, qu'un certain nombre de nouveaux militants viennent chez nous et qu'on va reconstituer la force que nous avions.
Nous avons d'ailleurs déjà changé pas mal de choses et je pense qu'effectivement, nous avons tiré la plupart des leçons qu'il y avait à tirer et que nous sommes bien partis maintenant.
En ces années 1986-1987, le magazine d'information générale de Radio Panique est réalisé en direct du studio. Parfois, nous faisons des reportages à l'extérieur. Nous avons à notre disposition deux enregistreurs, des petits portables Sony très fiables. Mais comment faire pour faire intervenir le monde extérieur sur les ondes en direct ? Le seul contact possible alors est le téléphone chez quelqu'un ou les cabines téléphoniques. Philippe Livrault va devenir le bricoleur des reportages en direct. Prenons par exemple le cas d'une manifestation. Philippe enregistre de l'ambiance et opère des interviews. L'émission Mixup se déroule à ce moment. Philippe prend possession d'une cabine téléphonique, téléphone à la radio, démonte le combiné et connecte le câble avec son enregistreur. On peut recevoir ses enregistrements bruts par téléphone et diffuser sur antenne du direct avec seulement quelques minutes de décalage. Philippe a l'habitude de sillonner à pied ou à vélo les rues de la ville et les lieux publics, flanqué de son enregistreur portable. Il capte de tout, son des rues, entretien dans des cafés, ambiances diverses. Il prétend qu'il ne sait pas interviewer, parce que ce n'est pas son métier. Mais c'est faux. Je lui dis, alors il opère quand même des interviews. C'est ainsi que le 1er mai 1987, Philippe se promène à travers toute la ville pendant toute la journée. Le matin, il va à la rencontre des cortèges organisés par les partis et les syndicats. L'après-midi, il visite les meetings et les fêtes des groupes et partis d'extrême gauche. Le soir, il participe à une fête loufoque organisée aux résidences Palace et inspirée par le souvenir d'Andy Warhol. Je me rappelle encore très précisément cette journée du 1er mai 1987. Je suis seul dans notre minuscule régie technique. J'ai préparé des commentaires sur divers événements ayant marqué l'histoire du 1er mai, et je les distille entre deux musiques révolutionnaires ou de lutte que Philippe et moi avons sélectionnées. De temps à autre, le téléphone sonne. C'est Philippe, évidemment. Je le balance sur antenne. Il commente ce qu'il voit et branche telle quelle cette prise de son brute. Après coup, j'ai réalisé un montage de 47 minutes uniquement à partir des enregistrements de Philippe. Ça s'appelle « Bonne fête ».
Extrait de « Bonne fête », photo sonore d'un 1er mai à Bruxelles.
Bonne fête, photo sonore du 1er mai à Bruxelles.
Pardon monsieur, je me demandais ce que représente pour vous le 1er mai.
C'est la fête des travailleurs. Ça rappelle les travailleurs à Chicago qui ont été tués en 1800, j'ai plus, ouais. Pour avoir fait du travail.
C'est de l'histoire ancienne.
Oui, mais non, mais nous, c'est malheureux. C'est moins suivi qu'avant, c'est triste. Parce que pour nous, travailleurs, nous devions suivre tout ça. Surtout à l'heure actuelle, le capitalisme reprend pied dans toute l'Europe occidentale, surtout.
Très bien.
Tous les pays d'Europe. C'est triste. Et les ouvriers ne le comprennent pas. Et là, c'est avantage pécunier, ni ce que leurs ancêtres ont dû être tués. Tu es battu pour gagner, disons.
En fait, c'est un jour très représentatif pour les travailleurs et aussi ce jour représente en fait les grandes bagarres qu'il y a eu dans le temps pour justement le respect des travailleurs et voilà. C'est-à-dire que c'est un jour symbolique, mais je crois que malgré tout, il y a un renouveau. Je crois que les gens se rendent compte que malgré tout, bien souvent, on essaie de bafouer les droits des travailleurs et que tôt ou tard, justement, il y a une réaction du peuple et justement des travailleurs.
J'ai chanté toute la nuit.
radio, radio, panique.
C'était l'information sur les radios libres et sur Radio Panique, 8e chapitre de la série « Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique », première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, Radio Panique interculturelle, utopie et réalité, et conclusion de la première partie.